Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment retrouver son esprit d'enfance? C'est notre thème en ce jour de Noël. L'enfance, c'est bien sûr un temps à jamais révolu, mais nous verrons que l'esprit d'enfance reste une ressource perpétuelle nichée au fond de nous et qu'il est possible de renouer avec cet esprit marqué par l'émerveillement et la curiosité. Comme le disait Nietzsche, l'enfance est innocence, mais également négligence. C'est un recommencement, un jeu, une roue libre, un premier mouvement, un oui sacré. Avec nous ce matin, le philosophe Roger Paul Droit et le journaliste Marc Le Carpentier, ami de Sampé, le grand dessinateur de l'enfance et pas que du petit Nicolas. Mes complices ce matin, Éric Libiot et Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Tu sais ce que j'aimerais? Maintenant?
Non, quoi?
Des Razzles.
Des Razzles? Waouh, j'ai pas mangé de Razzles depuis au moins 15 ans.
Tu te rappelles? Les bonbons qui deviennent chewing-gum.
C'est incroyable!
C'est dingue, ils en avaient encore! Allez, perdons pas de
temps. Ouais, ça fait longtemps. Fais gaffe! Ouais. Je parie que je te bats toujours au saut.
Deux. Trois.
Rien de cassé.
J'aurais dû grouper et rouler. Je me fais vieux.
Oh, tu l'es pas, sinon ça voudrait dire que je le suis.
Ouais.
Un extrait du film 30 ans sinon rien en 2004. Comment renouer justement avec notre esprit d'enfance et notre thème ce matin. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et écrivain. Parmi vos ouvrages parus, 101 expériences de philosophie quotidienne. Et vous venez de publier Esprit d'enfance chez Odile Jacob. Bonjour Marc Le Carpentier.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur de Télérama. Je crois que vous êtes le tout premier à avoir signé un contrat à notre Guillemette Audicino National.
C'est vrai.
J'ai des erreurs. Parfois.
C'est vrai. Merci. Merci maître.
Marc Le Carpentier, nous partageons une passion commune, fervente, immodérée pour un génie du dessin nommé Sampé. Vous avez publié avec lui l'album Enfance chez De Noël et Martine Gossiot avec des entretiens que vous avez menés. Roger Paul Droit, c'est la même chose, l'esprit d'enfance et conserver son âme d'enfant?
Pas vraiment, c'est-à-dire que l'esprit d'enfance, je crois que c'est quelque chose que nous avons en permanence. Il s'agit pas tellement de le retrouver comme si c'était un objet perdu, il s'agit de trouver le moyen d'aller y plonger. Ce sont des sensations, d'abord, et avant tout. C'est le goût de quelque chose que vous mangiez enfant, c'est une odeur. L'odeur de quelqu'un, l'odeur d'une maison, l'odeur d'une pièce, ce sont des rires, ce sont des jeux, ce sont des terreur, toute une série de choses qui sont, d'une certaine manière, en nous, même quand nous les avons oubliées, et qui peuvent ressurgir tout d'un coup, mais c'est aussi, profondément, je crois, quelque chose qui est ce que j'appelle l'autre versant de notre vie d'adulte. Toujours à disposition, mais qui des fois nous fait un peu peur, ou que nous laissons de côté, c'est pas sérieux, c'est des trucs de gosse, c'est puéril, ça se fait pas. Et puis, en fait, je crois que dans ces sensations, il faut arriver à les traquer, il faut arriver aussi à les considérer comme quelque chose d'un peu mystérieux. Une des erreurs, me semble-t-il, dans laquelle nous tombons souvent, c'est de croire que l'enfance, nous savons ce que c'est. Bon, c'est une période de la vie où c'est un certain type de rapport aux émotions, aux jeux, etc. Mais, philosophiquement, avec un regard philosophique, en tout cas, il me semble qu'il faut considérer que c'est quelque chose d'énigmatique, d'un peu étonnant. On ne sait pas ce que c'est. C'est de là que je suis parti, si vous voulez. C'est l'idée que l'enfance, ben finalement, on ne sait pas vraiment et qu'il faut y aller voir et qu'on découvre en s'y exerçant, en expérimentant à l'intérieur de chacun de nous ses sensations et ses souvenirs et ses déstabilisations, on découvre finalement qu'il y a quelque chose qui est un rapport différent au langage, à la logique, au jeu, au rire, au pleur, à l'intelligence, etc.
Alors vous écrivez que toute enfance est un puzzle d'images, de souvenirs, de jeux, d'émotions, de sensations, mais on ne discerne pas tout de suite le puzzle que forme ce dessin. Il faut un peu de patience et surtout apprendre à exercer son regard.
Oui, c'est un entraînement. C'est une expérience. C'est pas quelque chose de donné. Si vous voulez, il me semble que ce que j'appelle par rapport à l'enfance. L'enfance, nous l'avons tous vécue. Et puis, certains de façon malheureuse, d'autres de façon, magnifique. Généralement, c'est un peu mitigé. Enfin, bon, etc. Mais, ce que j'appelle l'esprit d'enfance, c'est bien plus ce qu'on peut, de nos souvenirs, extraire. Un peu comme une huile essentielle, si vous voulez, comme un distillat, voilà. Quelque chose que l'on va fabriquer par la remémoration, mais aussi par la réflexion, par l'expérimentation. Et en ayant cet esprit d'enfance, eh bien, on s'aperçoit qu'il marche évidemment dans des tas d'occasions de la vie d'adulte, dans le rapport que nous avons aux autres, dans la création. Je crois que dans le fond, finalement, tous les créateurs, qu'ils soient artistes, scientifiques, philosophes, mathématiciens, écrivains, ont ce rapport à quelque chose qui, finalement, décale, déstabilise, fracture un peu le sérieux.
Marc Le Carpentier, je rappelle que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du dessinateur Sempé. L'enfance chez Sempé, ça ne se résume pas au petit Nicolas. Sempé, c'est peut-être surtout le grand dessinateur de l'esprit d'enfance, plus que de l'enfance.
Je crois que ce qui caractérise beaucoup l'univers de Jean-Jacques Sempé, c'est un regard, comment dire, étonné sur le monde. Mais qui reste fondamentalement et toujours optimiste. C'est-à-dire que les dessins, il n'y a pas un dessin de Sempé, je crois, où il y a un jugement. Il y en a peut-être un ou deux et on en parlera. Il y a un enfant qui vient voir ses parents et il dit « je marche » alors que les parents regardent la télévision. C'est un dessin que j'ai publié, moi, dans Télérama, justement, en disant le plus grand bien. Et depuis, Sempé ne cesse de me dire que c'est un dessin qu'il déteste parce que, justement, il est lourd. Donc, dans l'esprit de Sempé, il y a un esprit de légèreté. Et pour aller un peu dans le sens de ce que disait Roger Polroy, j'ai le sentiment qu'il y a une famille de l'enfance. Il y a des gens qui ont conserver l'esprit d'enfance dans différents domaines. La famille Sempé, il y a Doineau, il y a Tati, mais il y a aussi, par exemple, Étienne Klein, je pense à des scientifiques qui regardent le monde avec talent, avec sérieux, mais avec distance toujours un peu. C'est-à-dire que on a conscience, ces gens-là, qui ont cet esprit d'enfance, et j'espère de temps en temps en faire un peu partie, regardent le monde en sachant bien qu'on n'est qu'un petit microbe, et que finalement tout ça, on comptera pas beaucoup dans l'histoire de l'univers.
Roger Polroy.
Et puis je crois qu'il y a quelque chose qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est, il me semble que l'esprit d'enfance, c'est l'esprit de la première fois. C'est-à-dire, c'est regarder les choses, goûter les choses, voir les gens, voir le monde, s'éprouver soi-même, comme si c'était toujours la première fois. Et les gosses, ils adorent la répétition, mais ce qu'ils adorent, c'est d'une certaine manière une répétition qui les lasse jamais. Vous avez dû vous tous jouer avec des petits, c'est le truc les fait marrer 58 fois, ça, aucun adulte ne rit la 58e fois.
Ça dépend, moi je
bon. Mais justement, et alors il y a ce côté, on recommence toujours le début.
Et Roger Polroy, en lisant votre ouvrage, on s'aperçoit que l'esprit d'enfance n'a pas d'âge.
Non, bien sûr. Écoutez, moi j'en ai 68, j'ai l'impression d'être un vieux gosse.
Bienvenue au club.
Ou d'être capable de retrouver de temps en temps. Je ne dis pas que ça marche toujours. Il ne s'agit pas non plus de faire le gosse. C'est quelque chose qui est de puiser en soi un décalage.
Non, mais justement, ce que fait Sempé qui est bien, je trouve, c'est qu'il montre aussi que l'esprit d'enfance est chez les adultes par bribes. Et que ce type qui salue un avion qui passe parce qu'il pense qu'il dit bonjour, c'est aussi un esprit d'enfance.
Alors elle aussi, elle n'a pas d'âge. Ce matin, Guillemette, vous vouliez nous parler d'un film de circonstance, Les vacances du petit Nicolas.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances.
Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
Allons, allons, les enfants, du calme.
Chaque année, papa et maman discutent de l'endroit où on va passer les vacances.
On ira à la montagne.
On ira à la mer.
Je sais pas pourquoi ils se mettent dans cet état, alors qu'à la fin, c'est toujours pareil.
À la montagne.
À la mer.
Alors
Maman.
Oui, mon chéri.
C'est quoi le verbe plaire à la deuxième personne du pluriel du subjonctif?
Les rats.
Non, que j'ai.
Non, pute.
Bon, alors c'est un quiz que tous nos auditeurs puissent répondre. C'est quoi le verbe plaire au parfait du subjonctif? Donc, comme vous l'avez entendu, la mer, la montagne. Bon, bah, c'est papa qui gagne. On est quand même dans un temps où c'était les papas qui gagnaient. Donc, ils se retrouvent à la mer, à l'hôtel Beau Rivage. Et alors, ce film-là, honnêtement, la première adaptation par Laurent Tirard des histoires du petit Nicolas, qui s'appelait donc Le petit Nicolas, je l'avais trouvé un petit peu mollassonne, un petit peu illustrative. Et franchement, les vacances du petit Nicolas, c'est beaucoup plus, justement, il y a beaucoup plus d'esprit d'enfance à l'intérieur, parce que c'est un film qui, évidemment, les interprètes principaux restent papa et maman, Valérie Lemercier et Cadmérade, donc ce sont des stars, il faut quand même un petit peu les filmer, en train de se disputer. Maman, par exemple, elle tombe sous le coup de foudre d'un réalisateur italien sur cet hôtel Beau Rivage, qui ressemble étrangement à une espèce de Fellini au petit pied. Cadmérade y retrouve un vieux copain d'avant, donc lui aussi retrouve d'une certaine manière son esprit d'enfance. Mais dans les vacances du petit Nicolas, ce sont les gamins qui compte, mais vraiment les gamins. Et il faut regarder ce film ne serait-ce que pour deux gosses, une petite fille très étrange avec des yeux très 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 ronds, qui d'abord fait très peur au petit Nicolas sur cette plage et dans cet hôtel. Elle sort directement d'un film de Tim Burton, vous pouvez vérifier, c'est absolument incroyable. Je sais pas où ils ont trouvé cette petite actrice. Et le petit crépin, dans les histoires du petit Nicolas, il y a toujours un gamin qui chouine. Souvent, alors à l'école, c'est plutôt Agnan. Là, au bord de la mer, il s'appelle Crépin et il pleure tout le temps. Et c'est un régal, ce petit interprète. Et c'est un film aussi qui est bourré de références. Alors, je peux vous les citer. Alors, il y a en même temps La Grande Vadrouille, Les Demoiselles de Rochefort, évidemment Les Vacances de Monsieur Hulot, et un petit coup de Shining. Je vous promets, vous allez voir dans le couloir de l'hôtel à un moment, c'est Shining, absolument. Et surtout, alors, c'est un film très intéressant à regarder, parce que c'est un film, évidemment, c'est le bord de la mer, les châteaux de sable, et cette époque où on n'attachait pas sa ceinture à l'arrière de la déesse, et on se dit, ah, c'était tellement mieux avant. Et en même temps, on se dit, oui, mais quand on n'attachait pas sa ceinture à l'arrière de la déesse, et que papa fumait des goldos devant avec les vitres fermées, c'était pas si bien que ça non plus. Et surtout, quand c'est toujours papa qui décide, et que maman, elle porte juste un délicieux tablier de cuisine, c'était pas forcément non plus toujours mieux avant. Donc c'est un film à la fois nostalgique qui dit que le passé, c'est délicieux quand on garde l'esprit d'enfance, mais que le présent, c'est un petit peu mieux quand même la société se modernise.
Merci Guillemette. Grand Main vous fasse, une émission préparée par Alexia Rivière, Lorraine Bess et Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
Minouche, ma minouche, pourquoi tu te fâches? Ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe. Pour une escarmouche, la colère te fauche. Je suis ton apache, le reste on s'en fiche. À quoi bon le clash si personne ne triche? J'aime le rouge qui tache quand il sort de ta bouche, la jolie ganache. Désert de Manouche. Minouche, donne-moi ta bouche, la plus belle de toutes les bouches. Minouche, sois pas farouche, t'es ma carouche, française de souche. Et pourquoi tu t'arraches?
Et puis qu'est-ce qu'on s'en fiche du moment qu'on s'en tiche. Minouche, donne-moi ta bouche. Minouche, ma minouche.
On vient d'écouter Minouche, interprétée par Rachida.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Ce matin, on se demande comment renouer avec son esprit d'enfance en compagnie du philosophe Roger Paul Droit et du journaliste Marc Le Carpentier.
Oh là, c'est quoi garder son âme d'enfant ?
Bah, rester frais, rester inventif.
Juste continuer à faire ce qu'on aime. De trouver des activités qui font oublier un peu notre statut d'adulte.
Moi, je dirais au moins un Kinder par jour, hein, minimum, suivi de un Disney ou un Miyazaki.
Voilà.
C'est la journée type, quoi.
C'est plutôt de faire des activités qui vous font garder cette idée d'être un enfant.
Un des souvenirs qui m'a marqué, eh bien, j'étais chargé avec mon vélo d'aller chercher des fromages de chèvre frais.
Faire du roller. Du vélo.
Ça peut être aller faire du vélo.
Ça, c'est un souvenir d'enfance qui m'a vraiment marqué.
Ça peut être faire des activités qui vous rappellent votre enfance.
Bah, d'ailleurs, voilà, c'est Pâques. Il faut continuer à cacher des œufs dans son appartement. Oui, il faut le faire, ça. C'est très important.
Bah, garder son âme d'enfant, oui, c'est important, surtout quand on avance en âge.
Même si on sait que voilà, on vit dans un monde de brut, mais justement, à tout âge, on peut garder son âme d'enfance.
Voilà, j'ai eu 60 ans il y a quelques jours, donc ça m'évoque beaucoup de choses.
Recueilli cette semaine dans les rues de Paris. Commentaire autour de la table, Roger Paul Droit.
Oui, je crois que c'est tout ce qui vient d'être dit est juste, c'est important. J'insisterai peut-être sur l'idée de passage de l'un à l'autre tout le temps. Vous voyez, il ne s'agit pas de se dire « réfugions-nous dans l'enfance comme un espèce de paradis perdu ou de refuge », ni de dire « c'est puéril, nous on est des adultes, on va faire autre chose », mais d'organiser tout le temps cet entrecroisement, cette combinaison, ce que j'appelle moi la déstabilisation, le fait de basculer ailleurs et de n'être pas simplement dans un seul rôle, finalement.
Et l'une des personnes nous dit que garder son âme d'enfant, c'est important quand on avance en âge.
Je crois que c'est important tout le temps, mais oui, bien sûr. Parce que, si vous voulez, plus on vieillit, plus on est rattrapé d'une certaine manière par un espèce par les habitudes, par le sérieux, par les rôles sociaux, par le fait de croire qu'on sait qui on est, ou tout ce genre de choses. Et il me semble que l'enfance comme sensation de la première fois, c'est aussi quelque chose qu'il faut... C'est rafraîchir, quand on dit rafraîchir un écran, vous voyez, ou rafraîchir une image. Finalement, rafraîchir notre propre présence, c'est ça aussi l'esprit d'enfance.
Marc Le Carpentier, il est beaucoup question de vélo hein, dans le micro-trottoir qu'on a entendu.
Oui, oui, et Sampé dessine beaucoup des petits, des petits garçons, ou des adultes d'ailleurs, sur des vélos dont on sent qu'ils sont dans le rêve. Parce que je crois que dans l'esprit d'enfant, justement, il y a aussi cette idée de rêve, d'échapper au réel. Et effectivement, je pense quand même qu'on a ou pas des dispositions pour ça. Et je parlais tout à l'heure des familles. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ne pourront pas recoller à l'esprit d'enfance. Et ils sont devenus, il y a quelques politiciens, par exemple, je ne les vois pas du côté de l'esprit d'enfance. Et peut-être que je me trompe, parce que peut-être que dans leur vie,
au fond d'eux-mêmes.
Hein, non, mais je ne donne pas de nom, sauf si vous insistez.
Guillemette Odissino.
Mais moi, je me demandais si, en fait, l'esprit d'enfance, c'est aussi un remède au cynisme. Quand vous parlez de rafraîchissement, enfin, parce que l'esprit d'enfant, c'est aussi une certaine candeur, une certaine manière de se positionner, comme vous disiez tout à l'heure, avec un étonnement par rapport au monde. Est-ce que ça aide pas à guérir ce satané cynisme qui envahit tout le monde et tous les esprits?
La caractéristique de l'esprit d'enfance chez Sampé, en tous les cas, c'est l'absence toujours de méchanceté. Donc on est soit du côté éventuellement de l'ironie, mais même ça chez Chance sans paix, c'est pas vraiment ça. C'est mais jamais dans le cynisme, mais jamais dans le jugement surtout. C'est-à-dire qu'il y a une constatation de ce qui existe, mais il y a alors que c'est pour ça que la grande différence de l'esprit d'enfance de certains comiques, je parlais d'une famille, mais il y a François Morel qui est un homme de cette maison, qui est dans cette ligne-là, et jamais dans le cynisme de certaines chroniques qu'on entend et qui, moi, me révulsent. Oui,
Roger Paul Droit.
Le cynisme, c'est quand on a finalement laissé tomber les rêves et qu'on assume de plus croire à rien.
Absolument.
Il me semble aussi que... Alors, je reviendrai une seconde sur les hommes politiques. parce qu'il y a une dimension de l'esprit d'enfance qui est absolument centrale, c'est le jeu. On dirait qu'on serait des pirates, quoi. Hein? Bon, eh bien, il me semble que les hommes politiques, et finalement tous les adultes, c'est... On dirait qu'on serait des hommes d'État, on dirait qu'on serait des chefs de parti, on dirait qu'on... Et évidemment, au bout d'un moment, ils rentrent dans l'image et ils oublient que c'est un jeu.
C'est pour ça qu'ils mentent, alors.
Mais il y a une dimension tout à fait centrale dans toute la société et dans toute la vie d'adulte d'un jeu.
Et on reviendra tout à l'heure sur les liens entre l'enfance et le jeu. Éric Libiot.
Oui, c'est vrai que la méchanceté, la malveillance, le cynisme, en même temps, il faut bien l'apprendre pour pouvoir s'en détacher quand on est adulte. Et c'est vrai que les enfants sont parfois, pardon de faire un peu le râleur, mais parfois un peu méchants, un peu jaloux et tout ça. Il faut l'apprendre justement. Il faut apprendre le yin pour connaître le yang. Et l'esprit d'enfance, c'est un peu ça. C'est en tout cas avoir conscience de ce que sont les choses pour pouvoir soit les adopter, soit s'en éloigner.
Je ne crois pas du tout que l'esprit d'enfance, ça soit seulement et la candeur, la gentillesse,
sur la gentillesse.
Il y a de la barbarie, il y a de la cruauté, il y a de l'indifférence aussi chez les enfants. Et dans l'esprit d'enfance même, c'est pas fait que de bon.
Bonjour Chantal.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. D'où appelez-vous ?
J'habite en Normandie.
Parfait.
Bonjour à tous et merci pour votre émission que j'adore.
Merci beaucoup. Que vous inspire notre sujet du jour ? Est-ce que vous avez conservé votre esprit d'enfance ?
Eh ben, je vais vous donner un petit exemple de ce que j'ai fait ce matin. Je vais déménager bientôt et je regardais des photos de mon futur salon. J'ai repéré une grosse poutre au toit sur laquelle je vais fixer ma balançoire dans mon salon.
Ah bon ?
Voilà.
Très
comment
bien.
Je vis ? Moi, je saute dans les flaques d'eau, je fais des coucous aux enfants dans les voitures ou les poussettes, je joue à cache-cache avec mes chats, je m'habille en couleur, j'ai 60 ans dans quelques jours. Et le côté de l'enfance, alors que je suis une ancienne patronne, hein, j'ai été chef d'entreprise toute ma vie. Voilà.
Vous étiez comme ça quand vous étiez patronne ?
Ah oui, je pouvais. Ah oui, je pouvais. Il y avait le côté sérieux parce que voilà. Mais si, j'ai toujours été comme ça dans quelques situations que ce soit.
Roger Paul Droit.
Je crois que oui, il y a quelque chose du jeu, de la facétie. Et puis, je crois que faire comme ça des choses excentriques, éventuellement, ça n'empêche pas du tout, non plus, d'être sérieux. C'est pas fromage ou dessert. Enfin, c'est pas. Il faut.
Ah ouf, tant mieux.
Tant mieux. Ben voilà. Il y a les deux. Alors, je ne sais pas dans le sérieux quel est le fromage ou quel est le dessert, mais en tout cas, vous voyez, je crois qu'il faut qu'on arrête avec les exclusives, les choix binaires, ou si c'est ça, c'est pas le contraire. On a quand même le droit de combiner dans son existence à la fois du ludique, éventuellement de l'absurde, du sérieux, être réglo sur les choses qu'il y a à faire et en même temps avoir des distances.
Bon, mais Chantal, vous avez droit au fromage et au dessert. C'est parfait.
Ah, plus les milliardises et plus la pousse café, etc.
Et la petite prune.
Marco Carpentier.
Ah, oui,
je rebondis sur ce que dit Roger Paul Droit, c'est-à-dire qu'on a une image de Jean-Jacques Sempé un peu de travailleur, et on a raison, parce que je connais peu de gens qui auront autant travaillé dans leur vie que lui. Il y a des milliers de dessins, c'est absolument étonnant. Mais c'est aussi un facétieux. Quand il était à l'Express et qu'il faisait ses dessins hebdomadaires pour regarder le monde avec ironie, il assistait à la conférence de rédaction. Jean-Jacques Sempé est un solitaire qui a toujours rêvé d'être en groupe. Et donc, il assistait à la conférence de rédaction et il avait parié, Jean-Jacques Servan-Schreiber présidait la conférence de rédaction, avec assez de componction, c'était le patron, hein. Et Sempé a parié, il le raconte dans le livre Enfance, qu'il dirait à un moment poil au nez. Et Servan Schreiber dit, bon, maintenant la conférence est terminée, et Sempé dit poil au nez. Et je trouve ça formidable de la part d'un adulte de réussir à de temps en temps retrouver ce moment de gaieté d'enfance.
Poilonné. Merci beaucoup Chantal de nous avoir appelé de Normandie. Roger Poldroit, il existe des tas d'expressions autour de l'enfance dans la langue française, des expressions qui montrent l'ambivalence de l'enfance. On parle de jeux d'enfant, d'enfance de l'art, et l'enfant serait alors le temps de la simplicité.
Oui. Et surtout, je crois qu'il y a, quand on regarde, en gros, l'ensemble des jugements autour de l'enfance dans l'histoire, je ne vais pas faire un cours pesant là-dessus, mais il y a ou bien une sorte de mépris, c'est-à-dire les enfants, ça veut dire d'abord, enfant, ça veut dire le mot même, celui qui ne parle pas. Infance, en latin, c'est ça, c'est le... Alors, le mot s'est étendu, évidemment, à des enfants parlants, mais c'est avant qu'on maîtrise le langage. Bon, et donc il y a l'idée, ils parlent pas, ils pensent pas beaucoup, ils sont un peu idiots. Descartes dit c'est un grand malheur d'avoir été enfant avant que d'être homme, parce que quand on est homme, on raisonne, on réfléchit, on est sérieux, on y voit clair, on fait des mathématiques ou de la philosophie. Alors quand on est enfant, on joue, on est un peu influençable, etc. Donc il y a un préjugé anti-enfant dans une grande partie de l'histoire.
Mais dans certaines expressions, par exemple, ne fais pas l'enfant. Voilà. L'enfance devient alors le temps du caprice. Et à contrario, c'est le temps de la candeur quand on dit un regard d'enfant. Ou alors le temps de l'infériorité quand on dit retomber en enfance.
C'est double face, c'est comme si c'était toujours ou bien une réserve, un paradis, une candeur merveilleuse, ou bien quelque chose de puéril, pas sérieux, moins bien, adulte c'est mieux quoi.
Quelle est la frontière entre ce qui est enfantin et ce qui est infantile?
Difficile.
Monsieur philosophe, vous avez 3 heures.
Je crois que infantile, c'est l'aspect péjoratif. C'est ce qu'il y a de moins bien dans l'esprit d'enfance et qui est justement, en quelque sorte, attardé par rapport à la maîtrise adulte. Et puis, enfantin, ce serait ou bien facile, ou bien au contraire, lié à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la candeur, le rafraîchissement, voilà.
Guillemette Odessino.
Je me disais qu'aujourd'hui, l'esprit d'enfance revient à la mode d'une certaine manière dans la société, avec tout ce qu'on appelle les adolescents, avec tous ces trentenaires qui restent un peu dans la notion de jeu, etc. Donc vraiment, enfin, il y a une quête presque, enfin, sociétale de l'esprit d'enfance.
Oui, alors avec le risque parfois que ça soit régressif, si vous voulez.
Voilà, parce
que
c'est peut-être la frontière dont parlait Aline. Oui,
c'est le syndrome de Peter Pan.
Oui, mais... un peu. Enfin oui, et puis, il y a aussi, oui, la refus de vieillir. Parce
qu'il me semble, si vous voulez, que pour moi, ce que j'appelle esprit d'enfance ne signifie pas faire l'enfant de façon comme ça, un peu un refuge. Le fait d'être adulte serait ennuyeux, pesant, difficile, desséchant, tout ce que vous voulez, et on se réfugie. Non, il me semble qu'il faut à la fois tenir, évidemment, et son âge, et son rôle d'adulte, ses fonctions, mais les irriguer, les desserrer. C'est comme s'il y avait des étaux. Vous voyez, qui nous contraignent comme ça dans des tas de choses. Et puis, ce que j'appelle l'esprit d'enfance, est-ce qui vient changer des choses dans le rapport au langage, dans le rapport au temps, dans le rapport aux sensations, etc. Enfin, et défaire justement ce carcan.
Oui. Alors, avec nous autour de la table, nos deux stagiaires qui terminent donc leur stage aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour Léo et bonjour Nino. Léo qui est en première au collège Stanislas et Nino qui est en troisième au collège Fromentin de La Rochelle. L'esprit d'enfance, ça vous parle, vous qui êtes des ados accomplis, Léo?
Bah, moi, ça me parle, évidemment, mais en même temps, c'est un goût mitigé. Il y a une volonté d'avoir des Madeleines de Proust, c'est-à-dire un retour à l'enfance, et en même temps, une volonté d'avoir l'esprit d'adulte, l'esprit de réflexion. Donc finalement, je suis un ado, et donc du coup, je ne sais que choisir entre les deux.
Enfin, quand voilà. Dans le bureau, t'es en train de lire Libé de façon très sérieuse.
Oui, c'est ça.
T'es plutôt du côté adulte.
Et puis
même.
Le soir, je lis Le Petit Nicolas, donc voilà.
Nino.
C'est bien.
Sur l'esprit d'enfance.
Ouais, c'est à peu près la même vision des choses que Léo. Faut savoir faire la part des choses.
Mais t'as plutôt envie, parce que t'as un âge charnière, de rester encore un enfant ou vite de devenir un adulte et de peut-être laisser de côté un moment en tout cas l'esprit d'enfance.
Non, moi rester en enfance.
Ah oui, ah oui. C'est très bien. Marc Le Carpentier.
Juste une chose, parce que là, ce que disent nos deux stagiaires, c'est la subtilité des choses. C'est-à-dire entre l'adulte et l'enfant, il y a, vous citiez Descartes, mais Yankelevitch dit le je ne sais quoi ou le presque rien, qui est là et qui fait que on passe d'un état à l'autre assez facilement. C'est-à-dire on est adulte à un moment parce qu'il faut l'être, mais on rêve de rester enfant par certains côtés. Et la frontière est très ténue à un certain moment.
Allez, dans quelques minutes, nous verrons, merci beaucoup Nino et Léo d'avoir participé à l'émission. Dans quelques minutes, nous verrons que l'esprit d'enfant sait s'émerveiller et s'émouvoir sans cesse. À suivre, La Fausse Pub de François Audran. Maria Carré, évidemment, en ce jour de Noël.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Monsieur, vous n'arrivez plus à jongler entre vie de famille et vie professionnelle.
Le poids des responsabilités vous épuise tellement que vous rêvez de retrouver le temps béni de l'enfance et son insouciance. Débranchez et offrez-vous plutôt un week-end chez papa et maman. Abandonnez femme et enfant sur le bord de la route et filez-vous faire dorloter 48 heures par vos gentils géniteurs. En passant un week-end chez papa et maman, c'est l'assurance de ne rien faire deux jours entiers et simplement de vous laisser aller. Grâce à une mère dévouée, vos efforts ne se limitent plus qu'à des déplacements réduits entre le canapé et la salle à manger. Vous alternez ainsi séries télé, siestes, matchs de foot et plats préférés préparés par votre chère maman qui est finalement la véritable femme de votre vie. Retrouvez votre cœur d'enfant en retournant chez maman. C'était un message de l'AMPF, l'Association des Mères Poules de France.
La fausse pub de François Audouin avec la voix d'Éric Oswald. Et on se demande ce matin comment renouer avec son esprit d'enfance avec le philosophe Roger Paul Droit et le journaliste Marc Le Carpentier. Roger Paul Droit, vous rappelez dans votre ouvrage qu'on associe souvent l'enfance et le jeu et on a tendance à opposer jeu et sérieux à tort selon vous. Pour vous, rien n'est plus bête que cette opposition entre jeu et sérieux.
Oui, parce que c'est là encore pas soit l'un soit l'autre. Il y a du sérieux dans tous les jeux. Vous pouvez pas jouer sans avoir posé minimum de règles. Alors, il y a les règles du jeu d'échecs, il y a les règles du jeu de dames, il y a les règles des jeux de cartes. Mais même jouer à être des pirates sur une île déserte, ça pose un certain nombre de règles. On pourra pas aller à l'épicerie, par exemple, dans ce jeu-là, ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de jeu... Même aussi libre ou apparemment spontané qu'il soit, qu'il n'ait des règles. Et d'un autre côté, à l'intérieur de ces règles, eh bien, il y a la partie à jouer, c'est-à-dire quelque chose d'imprévisible, à chaque fois des aléas, des surprises dans n'importe quel type de jeu. Donc, l'opposition entre jeu et sérieux dans les rôles sociaux dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, on dit on va passer un entretien d'embauche, ça c'est sérieux, c'est pas du jeu. Bien sûr, il y a une part de sérieux parce que ça va avoir des conséquences dans le réel. Mais il y a c'est aussi un jeu de rôle que d'être dans la situation d'entretien d'embauche.
Et puis il ne faut pas oublier que quand les enfants jouent, ils imitent ce que font les grands, ils accomplissent une série de gestes fondateurs.
Mais bien sûr, dans les tombes de babyloniennes, on trouve des petits chars. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a le fait de jouer avec en taille réduite les grands objets des adultes, ça c'est un truc éternel.
Alors vous rappelez dans votre ouvrage que l'Inde classique a finement réfléchi au lien entre jeu, enfance et vie humaine.
Avec quelque chose de très important qu'on ne trouve à ma connaissance qu'en Inde, c'est que la catégorie jeu est beaucoup, beaucoup plus vaste. Elle englobe les jeux érotiques, elle englobe les poèmes,
les jeux de ballon.
Les jeux de ballon, mais aussi les jeux littéraires. Voyez, et donc, faire un poème en ayant juste un vers obligé à la fin, une espèce de jeu de rhétorique, comme ça, d'écriture, ça c'est un jeu, mais jouer au ballon aussi. Et la distinction entre jeu d'enfant, jeu d'adulte, elle n'est pas pertinente, ni même entre jeux puérils et jeux sérieux. Et le jeu divin, c'est la grande catégorie, c'est-à-dire que finalement, pour les Indiens, Brahman, le dieu, il est obligé à rien. Il n'est pas obligé de créer le monde. Il le fait parce qu'il ne s'ennuie pas. C'est de la pure spontanéité. Dans le travail, on est tenu. Dans le jeu, on est libre. À part à l'intérieur des règles, bien sûr.
Marc Le Carpentier, dans les albums de Sempé, qui mettent en scène des enfants, on joue beaucoup.
Oui,
Façon libre, gratuite et autonome.
À la fois, on joue beaucoup. Il y a notamment tout un tas de dessins de Sempé, des enfants à la plage qui construisent des châteaux de sable, qui imaginent des mondes, qui se prennent la main pour aller tous se baigner ensemble. Et c'est des dessins qui me ravissent, moi. C'est vrai. Mais il y a aussi des enfants... comment dire ? Il y a un dessin, par exemple... C'est difficile de parler de dessins d'humour à la radio. Mais bon, il y a un dessin où il y a un petit garçon qui joue du violon avec un maillot qui est le numéro 10, donc de, je sais pas, Zidane, Platini, voilà.
C'est vintage, ça. Hein.
Oui, c'est vintage.
Voilà, et on sent dans ce dessin, de manière encore une fois avec la légèreté de Sempé, mais on sent que les parents le forcent à faire du violon et que il a un maillot et qu'il préférerait peut-être jouer au ballon. Donc il y a aussi ces contraintes de l'enfance. Et puis il y a une chose qui est que moi j'aime beaucoup dans l'idée que défend Sempé, c'est les amitiés d'enfance. Il y a le jeu, mais il y a aussi les amitiés formidables. Et il y a le dernier dessin du livre, par exemple, où il y a une grille et où il y a un tout petit garçon qui dit au revoir à son copain qui est loin loin de la pelouse. C'est absolument magnifique. Et il y a un dessin que Sempé veut faire, mais qu'il a jamais réussi à faire. Je suis trop long, c'est ça?
Non, pas du tout, allez-y.
Signe terrible.
Non.
Qui voudrait faire, mais qu'il a jamais réussi à faire, c'est un petit garçon. Ils sont tellement amis qu'il y a un petit garçon qui raccompagne son copain chez lui, mais ils sont tellement amis que le copain à qui il a raccompagné le raccompagne l'autre chez lui. Et il n'arrête pas de se raccompagner l'un l'autre pour
j'étais
ne
petite.
Pas se quitter.
Je l'ai fait quand j'étais petite.
Ah ben voilà.
Et après avoir fait l'aller-retour 20 fois avec une copine, on finissait aussi par se téléphoner parce qu'on n'avait pas terminé. Oui, tout à fait.
Roger Paul-Droit, quand on est enfant et que l'on joue, le temps n'existe plus. Surtout quand on éprouve la grande joie de jouer.
Oui, on est finalement...
Le temps est aboli.
Oui, quand on dit finalement que l'on fait quelque chose pour passer le temps, mais j'ai envie de dire que c'est voir le temps. Il passe comme passe une couleur, il s'estompe, il disparaît. On est dans l'activité, on n'est plus du tout dans la pendule ni dans le sentiment de ce qui se passe. On est immergé dans ce qu'on fait. Or, là, il y a quelque chose qui est aussi, une grande différence entre un esprit d'adulte qui estime... Quand les gosses, ils n'arrêtent pas de demander quand est-ce qu'on arrive en voiture. Vous savez bien, ils n'ont pas le. Voilà, parce qu'ils sont immergés dans leurs sensations et l'esprit d'enfance, il oublie le temps.
Alors, dans votre ouvrage, Roger Paul-Droit, vous nous rappelez que l'esprit d'enfance, c'est s'émouvoir sans cesse. Alors, nous constatons à tous que l'écrasante majorité des enfants passent du rire aux larmes avec une facilité assez déconcertante. Le thermostat de leurs émotions semble déréglé.
Oui, c'est-à-dire que ils sont tout à fait, nous le savons tous, capables de passer d'un désespoir qui paraît absolu à un éclat de rire immédiat qui lui aussi est absolu. C'est comme si...
Il y a une certaine radicalité de leurs humeurs.
Voilà, c'est comme si c'était une succession de tsunamis. Si vous voulez, il y a des tsunamis de désespoir, et là, il n'y a rien. Il n'y a plus de mémoire des temps heureux. Et puis, il y a des moments de joie absolue où il n'y a aucune mémoire qui semble rester de la difficulté de la vie. La posture adulte, c'est quand même beaucoup plus de thermostat et j'ai envie de dire beaucoup plus de mémoire. Alors ça a des avantages, des inconvénients. C'est plutôt mieux de ne pas être quand même tout le temps submergé par ses émotions. Mais ça perd aussi de la vivacité, de l'intensité et de la première fois.
Guillemette Odissino.
Mais en fait, les enfants, c'est l'ardoise magique. C'est ça que je trouve merveilleux. Parce qu'ils passent effectivement d'une émotion extrême à l'autre, mais parce qu'en fait, ils effacent le chagrin précédent qui avait l'air bouleversant. Hop, un coup d'ardoise magique, ils se mettent à rire, hop, un coup d'ardoise magique. Nous, on a perdu un peu la capacité de l'ardoise magique, en fait.
Oui, mais un adulte qui serait l'objet de ces tsunamis émotionnels passerait pour quelqu'un de totalement immature et infantile.
Oui, certes, oui, bien sûr. Mais pouvoir au moins...
d'écrire Sempé.
Avancer un petit peu.
Non, parce que Marc Le Carpentier. Il raconte l'hypersensibilité des enfants qui les fait passer du rire aux larmes. C'est un truc que raconte Sempé dans le livre. C'est qu'il était, par exemple, en vacances, et il y avait une guêpe qui, tous les matins, quand il faisait son café, passait dans la cuisine et il aimait beaucoup cette guêpe. Et puis un jour, la guêpe est venue bêtement se mettre dans le café bouillant et elle est morte. Il a essayé de la ranimer. Il est un peu bizarre comme garçon, je vous l'assure. Et il n'a pas réussi et il explique qu'il a pleuré à chaudes larmes.
Ce matin, on se demande comment renouer avec son esprit d'enfance en compagnie du philosophe Roger Paul-Droit et du journaliste Marc Le Carpentier.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park.
The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards. So I never had to witness what happens to the heart. I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle.
Leonard Cohen interprété Happens to the Heart.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
On se demande ce matin comment renouer avec son esprit d'enfance avec le philosophe Roger Paul Droit et le journaliste Marc Le Carpentier. Bonjour Grégory, vous appelez de Nantes en Loire-Atlantique, bienvenue.
Ben merci, bonjour à vous tous.
Alors vous, votre esprit d'enfance, vous l'avez conservé ?
Voilà, complètement. Enfin, moi, pour moi, l'esprit d'enfant, c'est une lutte au quotidien. En fait, c'est un esprit que j'ai toujours eu. Pour moi, c'était à l'âge de 16 ans, au moment de l'adolescence, là, par rapport au stagiaire qui était là. J'avais fait un mini camp en pleine nuit. Je me suis retrouvé face aux étoiles, et là, j'ai pris conscience de l'infinité du monde, de l'espace, et qu'on était, en effet, comme disait vos invités en début d'émission. On n'était rien du tout, on est vraiment des toutes petites miettes. Et je me suis dit, mais tout ça n'a pas de sens. En fait, ce monde n'a pas de sens. Ce monde est totalement absurde. Comme dit Dutronc dans sa chanson, à la fin du mois, j'attends mon chèque de fin de mois, alors qu'il y a des milliards d'extraterrestres peut-être. Et je me suis dit, tout ça n'a pas de sens. Et donc, tout ça est comme un décor. Et après, en grandissant un petit peu, je suis devenu comédien. Où chaque jour est réinventé, on part à chaque fois dans des histoires complètement différentes. Il y a vraiment cette phrase de Shakespeare qui, grosso modo, de mémoire, dit à peu près cela, c'est que la vie est un théâtre dont nous sommes les acteurs, les personnages. Et ben pour moi, c'est ça. Et la vie, c'est une grande récréation. La vie, c'est là pour s'amuser, pour se réinventer. Et en effet, on efface le petit tableau magique et tous les jours, on recrée quelque chose. Et des fois, quand j'entends des gens qui ont des pensées plus dures, pour moi, le verre est toujours à moitié plein, et d'entendre des gens avec des pensées trop contre l'autre ou du racisme et tout ça, je me dis, oh là là, mais quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Ils pourraient faire autre chose de cette énergie-là et la mettre dans des choses plus positives, s'amuser et réinventer chaque jour, aller à la rencontre de l'autre, quoi. S'amuser, prendre chaque jour. Quoi.
Et à propos d'amusement, Coriel, un auditeur nous dit, dans quelques jours, nous nous retrouvons avec de très vieux amis d'école à Noirmoutier, nous allons jouer la nuit à cache-cache dans les dunes, nous allons avoir peur, nous allons rire, nous serons contents de retrouver notre âme d'enfant, nous avons 57 ans.
C'est comme dans les vacances du petit Nicolas, c'est à Noirmoutier aussi. Et à la fin, les adultes, ils jouent à cache-cache et tout, c'est drôle.
Roger Paul Droit, sur ce que vient de nous dire Grégory de Nantes.
Alors, deux choses. Bien sûr, je crois que c'est bien de voir la vie comme un théâtre. C'est Jacquis dans « Comme il vous plaira », je crois qu'il dit ça, que la vie est un théâtre. Tous les hommes ont leur entrée, leur sortie, leur rôle à jouer, etc. Mais d'un autre côté, sans annuler cela, je crois qu'il y a aussi des moments où le monde est tragique, réel, et où il n'y a pas que le jeu. C'est-à-dire qu'il faut savoir jouer et s'amuser, il faut savoir aussi empêcher autant que faire se peut les tragédies ou prendre ses responsabilités ou ne pas se déresponsabiliser tout le temps. Voilà.
Merci beaucoup Grégory de nous avoir appelé de Nantes. À propos de tragédie, et celle-là est personnelle, Sempé a connu une enfance difficile, des parents pauvres qui se déchiraient, une mère qui le battait, un beau-père qui rentrait ivre le soir, sa mère qui lui disait par exemple « Approche un peu que je te donne une gifle et que le mur va t'en donner une autre ». Et pourtant, ça reste le grand dessinateur de l'esprit d'enfance. Mais comment cette enfance solitaire, humiliée, a-t-elle pu engendrer une œuvre aussi joyeuse, notamment sur l'enfance ?
Je crois justement que c'est une thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le livre, on s'aperçoit que l'enfance de Sempé à Bordeaux n'a pas été des plus roses. Une chose évidente l'a aidé à s'échapper, c'est la radio et la musique. La radio et la musique, c'est-à-dire qu'il se réveillait, enfin, il s'endormait pas plutôt le soir vers 11h, il allait écouter la radio et c'est là où il a découvert tout un tas de musique qu'il défend aujourd'hui. Mais je pense que s'il dessine des enfants heureux la plupart du temps, avec les réserves que j'émettais tout à l'heure, c'est-à-dire de temps en temps on les force un peu à faire des choses, mais Sempé pense qu'il faut forcer des enfants de temps en temps à faire des choses, il regrette qu'on ne l'ait pas forcé à faire du piano, parce qu'en fait il aurait rêvé d'être musicien plutôt que dessinateur, il pense que c'était beaucoup plus facile. Mais je crois que c'est vraiment une manière de s'échapper de ce réel qu'il a vécu à Bordeaux. Et les enfants, pour lui, restent le rêve absolu, quoi. Enfin, c'est ce qu'il aime.
Pour conclure, Roger Poldroit, renouer, retrouver, conserver son esprit d'enfance, c'est conserver l'esprit du débutant.
Oui, tout à fait.
L'émerveillement du débutant.
Oui, c'est l'esprit du débutant, c'est une formule du zen japonais pour dire celui qui est toujours en train de commencer, qui ne considère jamais finalement que l'expérience, l'acquis, etc. Et je crois que c'est ça, l'esprit d'enfance, c'est l'esprit de la première fois, toujours.
Merci beaucoup Roger Poldroit d'être venu. Esprit d'enfance est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup Marc Le Carpentier. Enfance de Sempé avec des entretiens que vous avez menés est publié chez De Noël et Martine Gossieux. Je le recommande très vivement et à suivre.
Et qui on peut voir les dessins c'est mieux qu'à la radio, il faut aller voir à la galerie.
Ça je ne vous fais pas dire ça Marc Le Carpentier. Éric Livio qui a conservé une âme d'enfant et également une barbe d'enfant. Vous l'avez depuis tout petit cette barbe?
Ah bah je l'avais même avant de naître, c'est pour vous dire.
Alors Éric, en ce matin de Noël, vous avez choisi de nous parler du puzzle.
Eh bien écoutez, l'enfance est un puzzle, dites-vous Roger Poldroit, et votre livre, dites-vous également, est aussi un puzzle fait de souvenirs, d'émotions, de sensations. Bon, très bien. Mais permettez-moi de vous dire, cher Roger Poldroit, avec tout le respect que je vous dois, que vous la jouez petit bras, car la vie entière est un puzzle. L'enfance, vous le dites, mais aussi l'adolescence, la cinquantaine, la vieillesse. Pendant l'adolescence, on découvre de nouvelles pièces du puzzle de la vie, fragiles et boutonneuses. À la cinquantaine, les pièces se lissent ou prennent d'autres formes, et à la vieillesse, il arrive de les oublier sur le canapé. Vous voyez un petit peu le tableau. Alors, dans cette chronique, j'essaie de parler d'objets du quotidien dont l'importance ou la singularité peuvent se mesurer à la métaphore qu'ils dessinent et qui fait écho à l'imaginaire collectif ou individuel. Il y a des objets qui transcendent l'époque, d'autres qui la poétisent, et c'est ce mélange de trivialité et de métaphysique, de banalité et de symbolique qui raconte le rapport au monde de chacun. Bon, alors je vois, Ali, que vous prenez un cachet d'aspirine et vous avez bien raison. Revenons à notre mouton du jour, le puzzle. D'ailleurs, j'imagine la difficulté de réussir un puzzle représentant un mouton, surtout en gros plan. Bref, donc le puzzle. Et pour me rattacher à la pièce précédente, le puzzle est tout de même l'objet le plus métaphorisant qui soit. Il s'utilise d'ailleurs dans mille expressions, comme « puzzle, y a de fou, puzzle, on rit » ou encore « chaque pièce a sa place, une place pour chaque pièce et les vaches seront bien gardées ». D'ailleurs, j'imagine la difficulté à réussir un puzzle représentant une vache, surtout en gros plan, bref. Enfin, quand je dis chaque pièce à sa place, faut voir comment les enfants devant un puzzle la triture une pièce pour qu'elle s'adapte à une place qui n'est pas la sienne. L'enfant est un révolutionnaire qui s'ignore. Chaque pièce à sa place, pas sûr donc, mais une place pour chaque pièce, pas sûr non plus finalement. Dans La vie mode d'emploi de Georges Perec, roman en forme de spirale et d'échiquier, l'un des personnages, Barthelbus, adepte de puzzle, meurt au moment où il termine son 439e puzzle. L'espèce d'espace vide qui reste à remplir dessine un X quand Barthelbus a dans la main une pièce en forme de W. Un W qui n'a sa place nulle part, un W qui est le titre d'un autre roman de Perec, dans lequel Perec, l'orphelin, écrit « Je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Cette pièce, ce W, n'a finalement de place que dans son imaginaire d'écrivain. Ce n'est ni une pièce de trop, ni une pièce manquante. C'est la pièce de l'intime, du jardin secret. C'est la bille de Francis Joffaut. C'est le traîneau de Citizen Kane. C'est l'armoire vide d'Annie Arnaud. C'est le ballon du petit Nicolas. C'est le pain au chocolat de Jean-François Copé. On a tous, au fond d'une poche ou de sa mémoire, cette pièce de puzzle en forme de W. Il faut la cultiver. Et tant mieux si elle ne rentre pas dans le tableau. C'est elle qui fait la singularité de chacun. Et pour paraphraser Alexandre Dumas, qui a métaphorisé le principe des pièces de puzzle dans un de ses romans en un cri de ralliement qui ne manque pas de panache et qu'il faut sans cesse remettre sur le métier, surtout en ce moment, une pour toutes et toutes pour une.
Merci beaucoup Éric Libio. À la technique ce matin, il y avait Henri Bérec et Anne-Laure Cochet. À suivre la bande originale.